On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
Une liberté de penser.
Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
Une force internationale.
Et même, on va plus loin.
Luc la liberté.
Écoute, Luc, on a vu les campements des pro-palestiniens sur les campus des universités, entre autres de l'Université Columbia. Et là, les républicains avaient dit là, qu'il faut mettre fin à ces campements-là. Et là, les démocrates ont embarqué aussi puis demandent à leur tour leur fin des campements. Et c'est un des problèmes, je trouve, avec le Parti démocrate, c'est qu'on a l'impression qu'il est à la remorque des républicains. Les républicains disaient, il faut faire quelque chose avec la frontière, ça n'a pas de sens. Les démocrates disent, oui, il faut faire quelque chose avec la frontière. Et là, les autres disent, il faut faire quelque chose avec les pro-palestiniens. Les démocrates disent oui. On dirait que c'est les républicains qui donnent le « là ».
Sur certains sujets, en tout cas, pour la question d'Israël et des présentes manifestations, tout comme pour la question de la frontière, on sent très bien qu'il y a cette division à l'intérieur du Parti démocrate. J'ai dit à plusieurs reprises, depuis que Joe Biden est entré en scène, très souvent, on a fait contre mauvaise fortune bon cœur, on a serré les rangs sur des enjeux qui divisaient. Et bien sûr, c'est l'élection, c'est la victoire, c'est la présidentielle sur laquelle on misait pour serrer les rangs et éviter des chicanes de famille en public. Cette fois-ci, on sent, à 6 mois de l'élection, ni plus ni moins, on sent que parfois le tapis nous glisse sous les pieds. Et s'il y a des critiques particulièrement virulentes de l'administration Biden, en passant, tout juste avant d'entrer en onde, il y a le secrétaire d'État Blinken qui laissait entrevoir la possibilité d'un cessez-le-feu. Ça semble assez sérieux de l'avis même du secrétaire d'État qui a eu beaucoup de mal à en découdre avec le Hamas, entre autres. Mais donc, si on revient sur les campus, on peut critiquer l'administration Biden. Ce qui devenait de plus en plus insupportable, ce sont les propos antisémites. Entre manifester des réserves sur le gouvernement actuel en Israël, entre dire aux universités et à l'administration Biden, vous pouvez en faire plus pour les civils, et carrément tomber dans l'antisémitisme, il y a des élus démocrates, ceux dont, en passant, si on les identifiait, ceux dont le siège n'est pas en jeu, ceux dont le siège est en jeu, c'est-à-dire qui sont dans des circonscriptions électorales où c'est plus fragile, c'est ceux-là qui sont montés au front pour signer une lettre en disant « on a franchi une limite ». Et on a vu d'ailleurs de plus en plus la police intervenir sur les campus. L'Université Columbia, qui est au cœur de ce conflit-là, a vécu beaucoup de secousses. Et je répète, j'ai moi-même écrit, puis j'ai pas eu peur de me mouiller dans ce dossier-là. Fondamentalement, j'ai une position qui est favorable à Israël au départ. Maintenant, dans la réponse qui était disproportionnée, j'ai émis des réserves. Puis, comme bien d'autres, j'ai dit, est-ce qu'Israël répond vraiment de façon mesurée et en respect de tout ce qu'on a habituellement comme balise au plan international? Mais de l'autre côté, difficile de tolérer un discours qui est franchement antisémite. Et là, ce sont des étudiants juifs sur les campus ou de confession juive qui se sont levés plutôt pour dire, ben là, on commence à avoir peur. C'est pas normal qu'on ait à fuir les campus. La liberté d'expression, elle se joue des deux côtés. Et nous, on en a contre le caractère particulièrement violent de certains propos. Et dans certains cas, c'est de l'intimidation qu'on dénonçait.
Écoute, on regardait les images, Luc, avec la police qui débarquait, puis tout ça, pour essayer de maintenir le calme. Et moi, en tout cas, je sais pas, toi, tu me diras ce que t'en penses, mais moi, j'ai pas vu ça depuis les années 60, là, au plus fort des manifestations contre la guerre du Vietnam, là.
Je suis content que tu nous amènes là parce que c'est exactement ce qui m'est venu à l'esprit. C'est pas des secousses sur les campus américains, il y en a eu beaucoup. Mais ce à quoi on assiste, pour moi, ça évoquait carrément les années 60. Et on est souvent aux prises avec les mêmes questions. C'est jusqu'où va la liberté d'expression et jusqu'où les universités peuvent-elles aller pour faire respecter leur réglementation? Les pro-palestiniens avec lesquels on discute, ils ont été avertis à de nombreuses occasions et on déplorait ce matin, j'ai suivi ça jusqu'au moment de me brancher pour te rejoindre pour la chronique, et c'est très difficile de se faire entendre de la part des autorités. Alors quand les policiers interviennent, très souvent pour nous, c'est toujours « il est trop tard ». Puis parfois on mise même pour de la publicité sur l'intervention policière. Il y a eu de très nombreux avertissements et les avertissements étaient dirigés contre, je répète, quand on ne peut pas garantir la sécurité de tout le monde et quand on atteint l'antisémitisme. Il ne s'agissait pas de léser la parole de ceux qui sont en faveur des civils palestiniens ou de revendications palestiniennes. on en est rendu à ce point-là, et c'est important de le dire. Là, c'est la raison pour laquelle les démocrates se sont levés. On parlait de violence, on parle de non-respect des réglementations sur les campus, mais bien sûr, je répète encore une fois, d'antisémitisme. Et si je me suis exprimé contre l'islamophobie sur certains campus ou dans certaines pratiques, c'est assurément pas plus acceptable quand on verse dans l'antisémitisme.
Ben, tout à fait. T'as tout à fait raison. D'ailleurs, quand les États-Unis prennent froid, le Canada éternue, hein, parce qu'on a vu, il y a des campements maintenant sur le campus de l'Université McGill. Écoute, il y a une dame que certains républicains auraient vue comme coulissière de Donald Trump. Et ça a l'air, sans mauvais jeu de mots, ça a l'air que son chien est mort.
Écoute, il y a deux choses dans le cas de Mme Noem que je trouvais intéressantes. D'abord, c'est elle est à la tête du Dakota du Sud. Depuis le début, c'est quelqu'un qui est pro-Trump. C'est Trump presque plus que Trump. Dans un autre domaine, on dirait plus catholique que le pape. Et on envisageait de Mme Noem qui, pour un électorat républicain plus conservateur, se présente très bien. On envisageait de la faire apparaître aux côtés de Donald Trump comme candidate à la vice-présidence. Dans une biographie, elle a raconté des choses qui, à une autre époque, je pense, n'auraient pas ébranlé les gens tant que ça. Donc, c'est quelqu'un qui grandit en zone rurale, c'est quelqu'un qui est habitué à avoir des animaux autour d'elle. À une autre époque, au Québec, pas si lointaine, on faisait ça aussi. Elle a dit à un moment donné, mais c'est pour montrer, et ça s'est retourné contre elle, elle argumentait en disant, vous savez, parfois, il y a des décisions qui sont pas faciles à prendre dans la vie. J'ai ce courage-là, je suis capable d'affronter l'adversité et la pression. Est-ce que c'était habile ou pas? Ensuite, ben écoute, laissons nos téléspectateurs, téléspectatrices se faire une idée là-dessus. Elle a dit, nous avions un chien, ces chiens-là étaient élevés pour la chasse, mais également ces chiens-là étaient élevés pour vivre parmi nous, recevoir les invités, nous fréquenter. Et nous avions un chien, ce qu'on appelait à l'époque un chien fou, c'est-à-dire très difficile à dompter, à élever. Puis elle a dit, il était devenu dangereux et j'ai dû me résoudre à l'abattre. Et elle aurait fait la même chose là, avec, je crois que c'est une brebis ou un mouton. Donc, tout le monde va dans la façon de décrire l'incident. Il y a plein de gens qui ont dit aujourd'hui, mais on fait pas ça aux animaux. Vous auriez dû investir dans son éducation. Donc, il y a eu tout un tollé. Il y a des gouverneurs, dont Gretchen Whitmer, qui se présente, qui est démocrate et qui, elle, en passant, est vue comme successeur éventuel à Joe Biden. Elle a été la première à se photographier avec ses animaux domestiques en disant, si vous êtes pour des politiciens qui n'abattent pas leurs animaux, voici, je suis la première à me lancer. Donc, on était même rendu dans une guerre d'image, là, en disant, on prend soin des animaux ou pas. Toujours est-il que la controverse autour du sort que Kristi Noem a réservé à ses animaux est en train de la mettre sur une voie de garage. À tout le moins, si on se fie aux sondages. Maintenant, est-ce que M. Trump, qui aime bien provoquer, qui habituellement a l'habitude de prendre ses décisions puis de ne s'en remettre qu'à ses partisans, est-ce que Donald Trump va la mettre de côté? On verra. Mais pensons à ce à quoi habituellement on utilise une candidature à la vice-présidence, c'est-à-dire tenter de nous rendre plus sympathiques auprès d'un électorat qui nous échappe. Est-ce que Mme Noem peut encore, entre guillemets, au plan politique, ça a l'air très dur, mais peut-elle encore rapporter autant à Trump? Est-ce que les indépendants ou les progressistes déçus la trouvent plus sympathique qu'avant? Tout ça part effectivement de son chien.
Ça a l'air anecdotique, mais tu sais, c'est quand même la patrie de, je sais pas si tu te souviens de ça, Old Yeller. Old Yeller, ouais. C'était un film de Disney avec un chien, un petit gars puis son chien, puis à la fin, il doit tuer son chien parce qu'il a la rage, etc. Tu sais, l'attachement au chien est vraiment fondamental pour les Américains. Ça peut paraître niaiseux, mais la fille peut peut-être perdre son poste de coulissière parce qu'elle a tué un chien.
Et regarde, et c'est pas un jugement, là, c'est tout simplement une évolution dans les faits et dans les réalités. Mon grand-père avait une basse-cour, on était à côté d'une ferme quand j'étais petit, et je me souviens comment on se débarrassait des animaux. J'ai grandi dans ce contexte-là. C'est pas un sort que je réserverais ou que j'ai réservé à mes propres animaux domestiques, mais c'est pour dire la perception, notre relation à l'animal, puis à la vie de l'animal, à son confort, elle a beaucoup évolué. Et effectivement, quand tu parles de Old Yeller, il y a tout un monde qui nous sépare de Old Yeller quand on est en 2024. Et moi, j'ai pas été, pas que je trouvais ou pas que je donne mon assentiment ou mon accord à ça, mais j'ai lu les passages en question du livre de Mme Noem et j'ai pas été choqué outre mesure parce que ça référait à une réalité que j'ai connue à une autre époque. Mais écoute, Mitt Romney, je sais pas si tu tuais ça, on est chronique canine aujourd'hui, tu sais. Mitt Romney a déjà été blâmé pour avoir dit, hein, à un moment donné, en voiture, on n'en pouvait plus avec le chien, puis on l'avait mis sur le porte-bagages, dans sa cage, et rappelle-toi qu'on est déjà passé par là en politique américaine. Mitt Romney contre Barack Obama, puis je sais pas combien de chroniques on avait eues sous toutes ces variantes, du chien se faisant un petit voyage sur le toit au grand air alors que la famille Romney était assise dans le station wagon.
Très drôle. En tout cas, Luc est peut-être né avec une basse cour à côté, mais ce n'est pas une poule mouillée. Merci beaucoup. Luc la Liberté, on se reparle demain. Salut. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille, à la recherche Flavie Boivin-Côté. Merci beaucoup Flavie, avec Marianne Bessette à la réalisation, la mise en onde, Jean-François Roy. Je veux saluer aussi particulièrement Dominique Plamondon et Jeff Bérard pour leur travail. On se reparle au prochain épisode.